déjà vivre comme des animaux sauvages parce qu'ils mangent les fruits qui sont sauvages et sans savoir les conséquences, qu'est-ce que ça va leur donner. C'est désespérant, c'est... Je ne sais pas quelle vie, comment construire cette vie-là. C'est une vie... Je ne sais pas. Je ne sais pas imaginer comment on peut vivre dans une minière comme celle-ci.
Bonjour à tous. En 2011, c'est dans l'Allégresse que l'indépendance du Soudan du Sud a été proclamée. La séparation entre le Nord et le Sud, entre Khartoum et Djouba, était supposée mettre fin à plus de 20 années de guerre civile. Il n'a hélas fallu que 2 ans pour qu'une impitoyable lutte pour le pouvoir, sur fond de division interethnique, déchire ce tout jeune et très misérable pays. Opposant Nuers et Dinkas au pouvoir, se déchire dans une indifférence internationale effrayante. Sur une population de 12 millions de personnes, on estime que 2 millions sont d'ores et déjà réfugiés dans les pays voisins, Ouganda, Éthiopie, Soudan. 2 millions d'autres errent sans but sur les routes et 7 millions sont directement menacés par la famine. L'ONU, qui dénonce dans un rapport des exactions abominables, comparables à celles de la guerre de Bosnie, a décidé de maintenir ses 17 000 casques bleus sur place. Un round de négociation doit commencer en mai en Éthiopie. En attendant, la famine, l'enrôlement des enfants dans les milices des deux camps, le viol systématique des femmes se poursuivent. Seules quelques organisations non gouvernementales comme MSF assurent, dans des conditions très difficiles, un minimum d'aide humanitaire. C'est dans ce pays qui pourrait vivre normalement, grâce notamment à ses ressources pétrolières, qu'Interception vous emmène ce matin. Sud-Soudan, la guerre oubliée, c'est un reportage de Claude Guibal, avec Benjamin Chauvin à la prise de son. Rendez-vous à Djouba, la capitale.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Vu de loin, le POC, le site de protection des civils, ressemble à un camp retranché, des guérites, des barrières, des grilles. Nul ne rentre ici sans montrer patte blanche. Tout autour, il y a des miradors gardés par des casques bleus chinois. On y accède par un petit escalier, une guérite minuscule, une ouverture en bois par laquelle on aperçoit la forêt de tentes marquée du logo des Nations Unies. Quand le massacre des Nuers a commencé en 2013, après que le vice-président Riek Machar a annoncé sa décision de se présenter contre le président Salva Kiir, la terreur s'est emparée des Nuers, traquée, chassée comme des bêtes. La population terrorisée a donc pris d'assaut le camp des Nations Unies pour s'y réfugier. 45 000 personnes y vivent toujours, la majorité n'en est jamais sortie. Leur vie, ils le savent, ne tient qu'à un fil, le fil barbelé qui marque la clôture du camp. S'aventurer au-delà, c'est s'exposer au pire danger ou à la mort.
Je m'appelle Charles Riak. Je suis le représentant du POC, le camp de protection des civils. Et je suis le leader communautaire. Je ne suis pas de Djouba, je suis du Sud-Soudan. Je viens de l'Upper Nile State, de Bentiu plus précisément. J'ai quitté Bentiu à cause des nettoyages ethniques. Ils ont voulu tuer tous les Nuers. Et moi, comme je suis Nuer, je fais partie de ceux qui étaient tués par le gouvernement. C'est à cause de ça que je suis là. Le jour où la guerre a éclaté au palais présidentiel, moi-même je pensais que c'était juste une guerre pour des motifs politiques. Et qu'en tant qu'individu, ça n'aurait pas d'effet sur moi. Mon frère a été tué sur son Porsche. Et ce n'était pas un soldat, mais un simple citoyen du Sud-Soudan. C'est pour ça qu'on s'est enfui de chez nous. Même les femmes et les enfants étaient tués. C'est comme ça qu'on a compris que c'était une guerre tribale. Des massacres ethniques, de porte en porte, de maison en maison. Dès qu'on entendait quelqu'un parler en Nuer, il fallait qu'il s'en débarrasse. Et puis on a entendu dire qu'on pouvait être protégé par les Nations Unies. C'est comme ça qu'on s'est dit qu'on pourrait avoir la vie sauf si on se réfugiait sur la base de l'ONU, comme ça qu'on pourrait survivre. Laissez-moi vous dire qu'il faut bien comprendre que les atrocités qui se sont produites vont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que tout le monde s'est figé sur les lignes tribales.
William, vous pouvez nous dire où on est ?
This is the camp, as you have seen.
Ici, c'est le camp.
It is a POC, and
le POC camp de protection des civils qui est divisé en plusieurs zones.
Et vous pouvez nous décrire l'endroit ? Ici, les abris sont en plastique.
Vous voyez les abris, c'est là-dessous que les gens s'entassent. Mais ce n'est pas fait pour qu'on habite dessous, il fait trop chaud. Ils sont recouverts par des bâches en plastique. Et lorsqu'il y a du soleil, c'est même difficile pour les enfants d'y survivre. Quand il y a du soleil, il fait très chaud aussi. Les gens veulent sortir, mais dès qu'ils sortent, vous voyez, il n'y a pas d'arbres. Alors ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent à l'intérieur et qu'ils attendent que la nuit tombe. Et que la température baisse. À la saison des pluies, ce n'est pas mieux. Vous avez vu, il y a des tonneaux à l'arrière. L'eau s'infiltre et ça affecte les gens. Et lorsqu'il y a du vent, ce vent qui peut être très fort, ça arrache tout. Et donc, vous restez comme ça jusqu'à ce que les pluies s'arrêtent. Et puis, il se remet à pleuvoir.
Et il n'y a pas d'électricité dans le camp. Is there any electricity in the camp?
L'électricité, vous rigolez ? On en manque. Pourtant, l'être humain a besoin de pouvoir s'éclairer. Non, c'est comme ça que nous, ici, on survit.
Certains ne sont jamais sortis du camp, n'ont jamais dépassé le fil de fer barbelé qui entoure le POC. Dehors, ce qu'on voit, c'est une étendue déserte avec quelques arbres, ce bois essentiel pour être transformé en charbon, pour cuire les aliments. Mais sortir pour le chercher, c'est risquer de mourir. Alors, ce sont les femmes que les hommes envoient, comme celle-ci, avec son cou gracile, entouré d'un rang de perles en plastique et ses yeux en éclats de silex. Elle s'appelle Margaret, c'est la représentante des femmes du camp.
Dans le camp, ce sont les femmes qui sont les plus vulnérables, à cause du bois. Ce sont elles qui s'occupent d'en trouver, parce qu'on ne peut pas trouver de charbon à l'intérieur du camp pour faire cuire la nourriture. Alors elles sont obligées de sortir, elles vont dans les bois, et là-bas, il y a des hommes qui les attendent. Ils les attaquent, ils les violent, et parfois ils les tuent. En décembre dernier, 7 femmes ont été tuées. On est parti à leur recherche avec les soldats de l'ONU et on a fini par les trouver. Elles avaient été violées, tuées et leur corps était resté ligoté aux arbres. Les femmes ici, ce sont elles qui ont plus de problèmes. Il n'y a rien à manger, pas de légumes, juste un peu d'huile et du sorgho, mais il est tellement vieux qu'il n'est même plus comestible et il vous détruit l'estomac. Si vous êtes enceinte et que vous n'avez rien à manger, vous faites des hémorragies. Ça vous tue. Tant de femmes meurent ici. Elles laissent derrière elles des enfants en très bas âge et personne ne s'occupe d'eux. Ici, il y a tant d'enfants, plein d'orphelins qui n'ont même plus leur mère.
Vous pensez pouvoir rentrer chez vous ?
Non, je ne peux pas rentrer chez moi parce qu'il y a toujours des combats là-bas.
Mais vous pensez rester ici pour toujours ?
Ici, vous voyez, c'est comme un arbre. J'attends, assis sous cet arbre, et quand les problèmes du Sud-Soudan seront finis, je reviendrai chez moi.
Les femmes et les enfants sont les premières victimes de ce conflit. En 2018, les partenaires humanitaires ont estimé que plus d'1,5 million de femmes et de jeunes filles risquaient de subir des violences sexuelles au Sud-Soudan. Selon l'UNICEF, plus de 15 000 enfants auraient été enrôlés de force par les différents groupes armés pour combattre. À l'entrée d'une tente, il y a John, il a 23 ans, il y a échappé, mais de peu.
Quand la guerre a éclaté, ma mère a été déplacée ici. À l'époque, je vivais en Ouganda. Je suis arrivé à la frontière entre l'Ouganda et le Soudan du Sud. J'ai été arrêté par des hommes en armes. Ils m'ont dit « D'où tu viens ?»« C'est quoi ton clan ?» J'avais tellement peur, vous savez. C'était horrible. J'essayais de leur dire « Non, je ne suis pas de tel clan, je suis juste un Sud-Soudanais. » Si je leur avais dit de quelle ethnie j'étais vraiment, ils auraient pu me tuer. Ils ne m'ont pas pris pour combattre, parce qu'ils cherchaient des garçons plus jeunes, costauds. Bon pour se battre. Moi, je n'ai pas eu à combattre. J'ai échappé à la guerre.
Je ne
peux pas sortir du camp. Car j'ai peur depuis ce qui s'est passé en 2013. La façon dont ils ont tué les gens, c'était horrible. Ils ont égorgé les gens avec des lances.
bottles into your stomach, you know.
Planter des tessons de bouteilles dans leur ventre.
Actually, it happened to most of our family.
C'est ce qui est arrivé à la majorité de ma famille et aux gens de mon clan. C'est comme ça qu'ils ont été tués.
The women were raped badly, you
know. Les femmes étaient violées.
Kids were just beaten on the trees, you know. Yeah, like dogs.
Ils ont balancé les enfants contre les arbres, comme on fait pour les chiens.
South Sudan, actually, we don't have enough. We don't have a stable.
Au Sud-Soudan, il n'y a aucune stabilité. Pour la plupart d'entre nous, le seul horizon, c'est la guerre. Nos cerveaux sont mobilisés par la guerre, alors que nous n'avons pas l'habitude de ça et que nous attendons anxieusement la paix. Mon futur, il sera meilleur quand il y aura la paix. Parce que là, mon futur, il est juste horrible. Je voudrais que les Sud-Soudanais aient une vie meilleure. Pour le futur, il faut qu'il y ait la paix.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Changement de décor, nous sommes maintenant au cœur de la terre ancestrale des Nuer, au nord du Sud-Soudan. La ligne de front, elle est à plusieurs dizaines de kilomètres. En fait, le conflit est figé. Les troupes gouvernementales tiennent l'essentiel des villes du nord, les routes et puis les accès stratégiques aux champs de pétrole. Olfangak, c'est le fief des rebelles, le bastion de l'opposition, une enclave épargnée grâce à sa situation géographique. La petite ville est enserrée dans les marécages, il n'y a absolument aucune voie d'accès terrestre et donc elle est à l'abri des chars et c'est pourquoi des milliers de personnes de toute la région sont venues s'y réfugier, la faisant tripler de volume. Aujourd'hui, environ 45 000 personnes vivent ici. Leur vie ne tient qu'à une chose, l'aide alimentaire larguée par avion de temps en temps et les très rares ONG présentes sur place comme MSF.
My name is Florence Okach.
Je m'appelle Florence Okach, je suis infirmière. Je travaille avec MSF depuis 16 ans, ici à Old Fangak. Je suis le référent médical, je viens du Kenya. Ça, c'est notre quartier principal.
Alors là, on est devant une tente qui est ouverte à l'air libre, avec 6 lits sur lesquels sont assis les patients qui sont en attente d'une consultation avec les médecins. De quoi souffrent ces gens en général ?
These people, we have some patients have.
Parmi ces patients-là, il y a des méningites, des cas chirurgicaux, des insuffisances rénales, des néphrites.
Ici, il y a beaucoup de femmes seules.
Oui, beaucoup de femmes seules, car les hommes vont chercher la nourriture. La plupart sont au front. Quand les combats éclatent, ils viennent chercher les hommes les plus forts pour les emmener se battre.
Vous voulez dire qu'ils viennent chercher les villageois ?
Oui, ils viennent... Ami, tu te souviens de la fois où ils cherchaient les gens ? Ils ont essayé de prendre notre personnel. Le coordinateur du projet ici avait dû s'interposer en disant « Non, non, nous avons besoin d'eux ici à l'hôpital, vous n'avez pas le droit de les prendre. »
Ce matin à Olfangak, la tension est assez diffuse. La ville grouille de soldats, d'hommes en armes. Un haut responsable de l'opposition est là. Il y a quelques minutes, tout le monde a tendu l'oreille. Une explosion. À l'entrée du camp de MSF, un jeune garçon est arrivé. Un œil blessé, le torse bourré d'éclats, sa main droite pendante, sanguinolente, déchiquetée par un engin explosif.
C'est un gamin qui a joué avec un détonateur. et le détonateur lui a explosé dans la main, donc une partie des doigts était, bon, était massacrée, donc on va le prendre au bloc.
Et qu'est-ce que vous allez faire pour sa main ?
Pour la main, on va d'abord faire les pansements. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas de radiographie. Et donc, on va d'abord faire une première estimation des lésions. Et puis, on décidera en fonction.
Sous la tente, le chirurgien s'affaire. Il fait extrêmement chaud, presque 50 degrés. La main du petit garçon est extrêmement abîmée.
Can you start with antibiotics?
C'est pas joli. Métronidazole dans le tamisier. Bon, cet enfant a la main mutilée, donc il nécessite une antibioprophylaxie. Donc on va lui administrer trois types d'antibiotiques pour éviter l'infection. Et là, le chirurgien va procéder à un débridement de la plaie, enlever les chairs mortes pour essayer de sauver un maximum de choses.
Un massacre, j'espérais que, mais tu vois de loin, ouais.
Les choses ne sont pas très claires. Personne ne comprend vraiment si le garçon a ramassé une grenade au bord de l'eau ou bien trouvé une mine non explosée, car des décennies de conflits avec le Nord-Soudan ont laissé près de 90 millions de mètres carrés de terre truffés de mines. Et la paix précaire n'a pas suffi, évidemment, à nettoyer le pays de ses outils de mort avant que la guerre n'éclate à nouveau.
Ah ben là, les lésions sont très sérieuses. Il a perdu l'extrémité de son pouce. Donc la deuxième phalange de son pouce, c'est fini. La dernière phalange de son index, aussi. Alors le médius, même chose, troisième phalange. Il y a une plaie sur la face ventrale, mais ça, il n'y a pas de lésion tendineuse, donc... Il va pouvoir garder ses deux premières phalanges du médius. En fait, il va perdre la totalité de son pouce parce que la première phalange aussi est trop atteinte. Il va perdre la troisième phalange de son index et la troisième phalange de son médius. Voilà.
Avec l'arrivée des réfugiés, les habitants d'Olfangak ont dû partager tout ce qu'ils avaient. Depuis le début de la guerre, quasiment aucune barge ne peut remonter de la capitale. Les zones de l'opposition, comme ici, sont délibérément asphyxiées, affamées pour punir la population. Pour comprendre l'ampleur de la crise alimentaire, il suffit de se balader dans les allées du marché. Des étals vides ou presque, pas un légume, pas un fruit... Un peu d'ail, d'oignons, et puis il y a ces minuscules sachets de plastique. On s'approche. Ce qu'ils contiennent, c'est à peine l'équivalent d'une poignée de riz ou d'un tiers de verre d'huile. Les regards sont fatigués. Ceux qui sont là sont comme des oiseaux sur un fil, peur de tout perdre à nouveau, traumatisés. Ils n'ont même plus le courage de cultiver. À l'entrée d'une échoppe, deux jeunes nous font signe.
Je m'appelle John. La guerre m'a poussé de Malakal vers Newfoundland, puis je suis arrivé ici. Ils nous ont d'abord bombardés pendant une semaine, puis ils sont arrivés. J'ai tout perdu. Je suis arrivé sans rien, juste mes mains vides. Ma maison était brûlée, tout était brûlé.
Et vous, vous appelez comment ?
Waitwan.
Et à Newfoundland, c'était pareil ?
Oui. À Newfoundland, il s'est passé la même chose que ce que raconte mon ami. Ils ont tué les mamans, les vieux.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait aux femmes ?
Ils les violent. Ils tuent les enfants. Car ils savent que l'enfant va grandir et pourrait vouloir se venger.
Vous vous souvenez de 2011, l'indépendance ?
C'était un jour magnifique. J'ai voté, on a fait la fête, on a dansé. Avant l'indépendance, on s'était battu au nord contre les Arabes jusqu'à la séparation. Après, on a cru qu'on serait indépendant pour de bon, qu'on aurait nos écoles, notre propre gouvernement, nos ressources, notre parlement. Et non, malheureusement, tout ce qu'on a eu, c'est une guerre ethnique.
Donc vous dites que le problème, c'est plus avec le Nord.
Non, le problème, c'est nous. Entre nous.
Vous savez, c'est une guerre tribale. C'est pas une bonne guerre. Une guerre ethnique, elle n'épargne personne.
Extrait du communiqué de la Commission des Nations Unies sur les droits humains au Sud-Soudan, publié le 28 février 2018. Les témoignages recueillis auprès des survivants sont épouvantables. Dans le comté de Lenya, une femme enceinte a raconté comment des hommes suspectés de soutenir l'opposition ont été torturés puis décapités. Elle a été détenue au milieu des corps en décomposition, dont celui de son mari. D'autres cas rappellent ce qui s'est produit en Bosnie, avec des viols commis sous la contrainte par des membres de la famille. Une femme a raconté comment, après avoir vu son mari se faire castrer, son fils de 12 ans a été obligé d'avoir des rapports sexuels avec sa propre grand-mère afin de garder la vie sauve.
Alors nous sommes sur un bateau qui file vers le nord, vers la frontière avec le Nord-Soudan. On est sur un affluent du Nil qui est bordé de roseaux. Et derrière les roseaux, on voit dépasser les toits des toukouls. Les toukouls, ce sont des huttes en boue séchée. Et puis devant ces huttes, il y a des groupes d'hommes qui descendent à la rivière pour se laver au milieu des ibis et des échassiers.
Le village dans lequel nous nous trouvons s'appelle Kwamdok. Ce sont quelques huttes de boue séchée avec des buffles à bosse et puis la rivière bordée de papyrus gigantesques. En fait, c'est une île entre rivière et marécage. Alors, Kwamdok, ça n'existe pas sur les cartes. Les nomades se sont rassemblés ici, à l'abri des combats. C'est une enclave préservée du feu, aux allures presque trompeuses de petits paradis, parce que c'est une enclave où rien n'arrive, il n'y a pas de route ici. Et avec la guerre, plus rien ne parvient de la capitale, ni nourriture, ni médicaments. La population n'ose même plus cultiver les terres, de peur d'avoir à repartir. La population ne survit que grâce aux poissons de la rivière. Il n'y a rien, absolument rien d'autre.
Je m'appelle Joseph Berkal. On souffre terriblement de la guerre. Même nos vaches meurent par manque de médicaments. On ne peut pas soigner le bétail. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas à manger ici. Des pluies énormes ont détruit toute la récolte. La nourriture que largue l'aide alimentaire mondiale, c'est la seule nourriture qu'on ait.
Avant, c'était différent.
Oui, c'était différent. Il y avait la liberté de circulation. On pouvait aller partout. À partir du moment où la guerre a commencé, on n'a plus cette liberté de circuler. On est coincé ici, sans bouger. Et ça, c'est une des graves conséquences de la guerre.
Even me, I cannot see there if there is no
Même moi, j'aurais cessé de respirer sans l'aide internationale. Maintenant, on dépend de vous. Vous, les partenaires internationaux. La survie du Soudan du Sud, elle ne dépend plus que des ONG, car il n'y a plus rien ici. Aucun soutien du gouvernement.
Vous pensez que la paix sera possible? Do you think peace will be possible?
Yeah, everyone wants peace.
Oui, tout le monde veut la paix, car s'il y a la paix, tout ira bien. Chacun pourra revenir à ses activités. Si tu es cultivateur, tu t'occuperas de tes cultures. Si tu es berger, tu feras ce que tu as à faire. On a besoin de la paix.
Vous pensez que les Dinka et les Nuer peuvent se réconcilier?
Oui, ils vivront en paix, car on est des frères. Là, c'est des divergences de besoins, d'intérêts. Ce sont des disputes entre deux frères. Ils vont finir par s'asseoir quand ça se finira. Ils se réconcilieront et tout reprendra comme c'était avant. Ils vont s'asseoir pour discuter ensemble. Ce sont des disputes entre frères, des frères qui se battent.
Au bord de la rivière, Arnaud, le superviseur médical de MSF, a installé quelques tables. Des femmes, des enfants font la queue. Malaria, dysenterie, maladie parasitaire, leishmaniose, la situation est catastrophique.
Ce village existe, il est momentané. C'est ainsi qu'ils sont tout le temps normal. Ils ne peuvent pas cultiver, c'est difficile. Tout le temps, ils sont obligés de bouger parce qu'ici, il y a un problème de sécurité. Ils ne peuvent pas rester longtemps en train d'attendre leur récolte. C'est ainsi qu'ils sont démotivés de faire la culture vivrière. Ils attendent que les femmes donnent la manger.
Et ici, sans le travail des ONG, qu'est-ce qui se passe?
Ah, je pense que c'est la catastrophe puisque tout le monde serait mort. C'est désespérant, c'est... Je ne sais pas quelle vie, comment considérer cette vie-là. C'est une vie, je ne sais pas imaginer comment on peut vivre dans des milieux comme celui-ci. Des fois, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Tu fais rien, quoi. Tu te dis, je suis incapable de résoudre ce problème. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec les leaders communautaires pour comprendre un peu le nombre de décès par mois, par jour, des choses comme ça. Mais c'est catastrophique. Il y a beaucoup de serpents partout, il y a des crocodiles dans la rivière, donc c'est trop limite. Il n'y a aucun fruit dans les villages. Les gens vivent comme des animaux sauvages, puisqu'ils mangent les fruits qui sont sauvages, et sans savoir les conséquences, qu'est-ce que ça va leur donner. L'eau qui coule là-bas, c'est l'eau, tout le monde se lave dedans, ils lavent les assiettes dedans, le bœuf lave dedans, donc ils prennent cette eau alors que c'est une eau très sale. Ils n'ont pas de chance de traiter de l'eau, ils n'ont pas les moyens. Ni le temps de faire de creuser des puits, c'est difficile. Malheureusement, c'est la triste réalité.
Je m'appelle Stephen Marwatch. Je travaille pour l'ONG World Relief ici à Kwamdwong. Je venais de Djouba.
J'ai entendu des sons gunshots. And I saw some of the people being killed.
J'ai entendu les coups de feu, j'ai vu des gens tués
in front of me.
Devant moi.
Even some of relatives who have been killed.
Même des proches ont été tués là-bas,
there, in Juba.
À Djouba. C'était, vraiment, c'est encore au-delà de tout ce qu'on peut imaginer.
En 2011, vous pensiez qu'il pourrait y avoir des problèmes par la suite?
No, I didn't.
Non, pas du tout.
Because I thought that when people fight,
parce que quand les gens se battaient contre le gouvernement du Soudan,
they want justice,
ils voulaient la justice,
freedom,
la liberté, l'égalité.
Equality. I thought that all those
et je pensais que tout ça, ça serait au Soudan du Sud. Parce qu'ils se sont battus pour ça.
Alors, pourquoi ils se battent?
Pour des intérêts politiques.
You know the politics.
Vous savez, la politique.
South Sudan is rich country because South Sudan is green.
Le Soudan du Sud est un pays riche. Il est vert, il y a du pétrole,
cattle,
du bétail,
culture, all those things.
De l'agriculture, on a tout.
They need
On a besoin d'une bonne gouvernance. Quand la guerre a commencé, c'était d'abord une histoire de politiciens. Mais lorsque certains ont appris que leur frère avait été tué, alors ils ont pris les armes. Mais pour moi, quand la paix reviendra, tout ça, ça sera terminé. Si vous lisez l'histoire du monde contemporain, de l'Europe, des pays africains, dans tous ces pays, il y a eu des guerres. C'est arrivé à tant de pays. Ça s'arrêtera. Tout a un début et une fin. Ça, je le sais.
Les corps ici sont secs comme des souches brûlées, la maigreur extrême. Les yeux sont jaunis par les maladies, des flammes folles et parfois inquiétantes font briller les pupilles. La saison de la soudure approche, ce moment où la maigre récolte de l'an passé est terminée et où la saison des pluies n'a pas encore commencé. 7 millions de personnes sont en train ici de mourir de faim.
My name is Jill Seaman.
Je m'appelle Jill Seaman et je travaille comme médecin au Sud-Soudan depuis 1989.
Last year, we had...
L'an dernier, on a connu ce qui devait s'appeler une famine, même si elle n'a pas été officiellement appelée comme telle par le Programme alimentaire mondial. Il y a d'abord eu les insectes qui ont détruit la récolte. Puis, il y a eu les inondations qui ont détruit tout le reste. Comme tout était inondé, personne ne pouvait plus rien manger, y compris les animaux. Il leur faut brouter l'herbe, mais elle était inondée. À cause de ça, il y avait zéro nourriture. Il ne restait rien de la récolte précédente. Avec l'arrivée de déplacés, la nourriture avait été partagée avec tout le monde. La période entre la fin des réserves et la récolte, les Nations Unies appellent ça le hunger gap, le trou de la faim, et ça va se reproduire maintenant. Les gens au Soudan du Sud sont des survivants depuis longtemps, mais cette crise en particulier a beaucoup changé les choses. Il n'y a jamais eu ce type de guerre, ces tueries de masse. Même avant, pendant la guerre contre le Nord, on a eu des bombardements, mais rien de comparable à ce qui se passe depuis 2013. Ça brise le cœur. Avant, on rêvait d'avoir des possibilités de développement. Les gens espéraient qu'on construise enfin la route qu'ils attendaient. Et finalement, je me réjouis que ça ne se soit pas fait, parce que, comme il n'y a pas de route, les chars ne peuvent pas arriver jusqu'ici. On a eu de la chance. En fait, si on veut qu'un pays puisse se développer, il faut des infrastructures. Mais même le développement de base n'a pas eu lieu. C'est très triste. Et puis, la crise a éclaté en décembre 2013.
Vous vous souvenez de l'indépendance en 2011?
J'étais tellement heureuse de voir les gens comme ça. Mais j'étais complètement paniquée parce que j'avais peur. Bien sûr, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais j'avais peur. Il n'y avait aucune infrastructure, il n'y avait pas d'école. Si vous regardiez les cartes qui répertoriaient les écoles, l'eau potable, la sécurité alimentaire, vous auriez vu qu'au Soudan du Sud, tout était dans le rouge. J'aurais tant aimé que les 50 périodes intermédiaires jusqu'à l'indépendance en 2011 aient permis d'amener l'éducation et le développement d'infrastructures pour que les gens puissent se développer. Mais ça ne s'est pas fait. Ça a été un triste gaspillage. Or, vous avez besoin de ça pour faire fonctionner une communauté. Si personne ne sait à quoi ressemble une société civile, comment pourriez-vous en créer une ? On aurait eu besoin de plus de temps pour répondre à ce genre de choses, ce genre de besoins.
Quand on sort de la pénombre de la maison du docteur Jill, il faut circuler entre des corps gémissants, couchés à même le sol. Le paludisme, le calazar, en fait la leishmaniose endémique ici, la gale, la lèpre, les méningites, les typhoïdes. La guerre du sous-développement, elle aussi, ses armes silencieuses. À l'autre bout du village, tout au bout de la longue piste de terre, il y a l'école et la mission des prêtres comboniens. C'est là que vit le père Grégor.
On ne peut pas diriger un État moderne sans avoir des décennies d'expérience. L'État n'a jamais fonctionné. Du coup, on retombe sur les structures traditionnelles. On ne fait confiance qu'à son oncle ou son père. Les liens du sang, c'est la seule chose qui compte. Je veux dire, chaque père de famille a la responsabilité de protéger sa famille et sa patrie.
Sa patrie n'est pas la nation, c'est le territoire traditionnel de son clan. Pendant des siècles, les tribus se sont fait la guerre pour le bétail. Il y a eu une guerre entre les Nuer et Mourlé en 2011, qui en un an a fait 5000 morts de chaque côté, pour du bétail. Avant, ils avaient des lances. Maintenant, avec les Kalachnikovs, on a changé d'échelle. Et ici, chacun est armé. Du coup, quand la guerre a commencé, on peut voir ça comme l'escalade d'un conflit qui a toujours existé parmi les tribus, d'aussi loin qu'ils se souviennent. Ce qui a changé, c'est le nombre de victimes, mais pas la motivation. Le fait que ce soit une tribu qui veuille prendre les biens d'une autre.
Vous pensez que la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, qui ont beaucoup encouragé la naissance du Soudan du Sud, sont allés trop vite et ont aidé à créer un État sans réfléchir aux structures nécessaires ?
Je ne sais pas s'ils sont allés trop vite, mais ils n'ont pas réfléchi à ce qui était essentiel. Ils auraient pu réfléchir à une constitution qui inclut davantage toutes les tribus dans le partage du pouvoir. Beaucoup de gens qui connaissaient la situation économique et sociale avant l'indépendance avaient prévenu que ça ne marcherait pas. Même si on fait abstraction de la question ethnique, trois quarts de la population de ce pays est analphabète. Et ici, dans cette région, plus de 95%. Il faut que les gens aient un minimum d'éducation pour faire fonctionner un État moderne.
Alors le soleil commence à baisser, mais il fait toujours une chaleur épouvantable, plus de 40 degrés. On est sur la grande aire de Terre Séchée qui est à l'entrée de la ville, face au marché. Il y a là plusieurs centaines de personnes qui sont rassemblées. Un cercle parfait d'hommes et de femmes au portrait droit, très hiératique, enroulés dans des tissus colorés. Et puis il y a un soldat avec sa Kalachnikov qui empêche la foule d'approcher les danseurs au milieu de la place. Car ce soir, le gouverneur, l'un des hommes les plus haut placés de l'opposition, est en ville. Major général Johnson Paul, quelle est la situation aujourd'hui ?
Nous avons signé la cessation des hostilités avec le gouvernement du Soudan du Sud. Le cessez-le-feu a été rompu dans les états de Bié et celui d'Unité. On tient maintenant nos positions et on espère que l'IGAD et les autres partenaires, comme l'Union européenne et les autres organisations internationales, s'impliquent et que le Soudan du Sud accepte la paix.
Les autorités du Sud-Soudan sont soutenues par certains pays de la région, alors que l'opposition, elle, n'a pas de soutien international.
Nous sommes isolés, c'est vrai. Vous savez que notre chef, Riek Machar, est en résidence surveillée en Afrique du Sud. En ce moment, on est seul. On se défend tout seul. Parce qu'on n'a pas de partenaire international qui nous aide. Or, comme il n'y a que Djouba qui bénéficie de soutien logistique, la guerre continue, car il nous traque. Il n'y a qu'ici que nous avons un appui important, grâce aux civils. Sinon, nous ne serions pas là, en train de parler sous cet arbre. Mais si un autre pays nous fournissait des armes pour nous battre, la guerre n'aurait pas duré. On serait à Djouba maintenant, et le Soudan du Sud serait pacifié.
Que répondez-vous à ceux qui disent que le tribalisme est tellement important au Soudan du Sud qu'il empêche de construire un État ? Avant l'indépendance, les 64 ethnies se sont battues côte à côte contre un ennemi, le Nord. Mais là, elles se battent à nouveau entre elles. Est-ce que pour rester unies, le Soudan du Sud a besoin d'un ennemi extérieur ?
Bien, les 64 tribus ont combattu un ennemi principal et cette guerre, comme vous le savez, a duré 21 ans. Et ensuite, après l'accord de paix intermédiaire, on est tous partis dans la même voiture, direction Djouba, pour construire notre pays, pour être une nation libre. Quand vous parlez de la capacité des ethnies à être ensemble, oui, pour être franc avec vous, c'est vrai, tout le monde aime sa tribu. Pour diriger 60 tribus, ce qu'il faut, c'est une bonne gouvernance.
En février dernier, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a sorti un rapport glaçant sur les exactions commises par l'ensemble des différents groupes armés.
Si l'un de nos chefs militaires est mis en cause dans des atrocités, et cela vaut pour moi, il sera jugé. Nous avons des commandants qui ont été cités, ils seront poursuivis. Nous n'avons aucun problème avec ça.
Si ces gens ont commis des crimes, ils doivent être jugés. Nous combattons pour la justice. Nous avons combattu le gouvernement du Soudan pendant 21 ans parce qu'il n'y avait pas de justice. Et finalement, nous avons obtenu l'indépendance et nous n'appliquerions pas la justice. Alors pour quelle raison s'être battu ? Il faut que les gens s'accordent un pardon mutuel et qu'ils se rassemblent comme une seule personne, une seule nation. Après cela, si les gens sont accusés de ces crimes, ils seront arrêtés et jugés.
L'homme qui s'exprime ainsi devant les caméras d'Al Jazeera le 9 juillet 2016, c'est Salva Kiir, le président du Soudan du Sud.
Interception sur France Inter.
Au Sud-Soudan, la guerre a depuis longtemps dépassé les frontières de la rivalité entre Tribunuaire et Dinka, Chilouk, Mourlé. Le conflit s'est généralisé. Chaque camp se renvoie la responsabilité des atrocités. Chaque camp s'accuse des pires crimes. Puis on se retrouve pour signer des cessez-le-feu qui sont immédiatement violés. Et puis tout recommence. Cela fait 4 ans que les civils sud-soudanais sont pris à ce piège. 4 ans qu'on meurt au Sud-Soudan dans un silence assourdissant.
Beaucoup de gens sont traumatisés par cette guerre. Les gens sont dans des camps de l'ONU depuis 4 ans. Ils ont dû quitter leur maison. Malakal est vide. Avant la guerre, il y avait 300 000 personnes qui vivaient là. Maintenant, la ville est vide. Les gens sont dans les camps à Bantu, Waou, partout. Ça a affecté beaucoup de gens. Je ne suis pas un soldat, mais j'ai été forcé de rejoindre le combat.
Ça veut dire quoi, j'ai été forcé ?
J'ai été forcé parce que cette guerre s'est transformée en guerre ethnique. Moi, je n'ai pas de religion, je n'ai pas d'affiliation politique, mais je suis un nuer. Vous pouvez le voir à cause des marques rituelles sur mon visage. Avec ça, je peux être tué. Et je ne peux pas l'accepter, à moins d'être prêt à me sacrifier. Là, c'est tranquille, mais on s'attend à une menace très vite. Car comme vous le savez, le gouvernement se prépare à une offensive contre les rebelles ici. C'est imminent, ça peut arriver n'importe quand.
Et en cas de menace, vous ferez quoi ?
La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous défendre.
La seule chose qu'on puisse faire, c'est se défendre en se sacrifiant. Ici, il n'y a nulle part où fuir. Si le gouvernement arrive jusqu'ici, il n'y a aucun endroit pour fuir.
Vous avez une famille ?
Oui, j'ai une famille, 2 enfants.
Le premier est né en 2013,
avant la crise, le deuxième en 2016.
Et comment vous voulez les élever, ces enfants ?
J'espère trouver un endroit pour les envoyer à l'école. La seule chance, en fait, c'est de les envoyer dans des camps, en Ouganda, au Soudan ou en Éthiopie. Mais moi, je resterai ici. Je resterai ici.
Yeah.
Soudan du Sud, la guerre oubliée, c'était un reportage de Claude Guibal, prise de son Benjamin Chauvin, réalisation Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe, mixage Jean-Philippe Jeanne. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.